Donc, le livre de Daniel, au chapitre 6, nous lirons les versets 1 à 10. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. J'ai déjà souligné le fait que on a reproché à bien des reprises au Dr Lloyd-Jones le fait qu'on considérait qu'il ne prêchait pas assez selon les circonstances actuelles, selon l'actualité. Bien sûr que sa prédication n'était pas déconnectée, mais sa réponse était « La prédication ne dépend pas de l'actualité, justement. Nous suivons plutôt le programme de Dieu, le calendrier de Dieu. » En fait, ce matin, même si nous mettons jusqu'à un certain point les choses du dehors de côté, nous ne sommes pas en train de mettre de côté l'actualité, nous sommes plutôt dans l'actualité la plus importante qui soit, à savoir Dieu et son évangile. Rien n'est plus d'actualité pour chacun et chacune d'entre nous, en fait, pour tout homme et pour toute femme qui vivent dans ce monde, que la connaissance de Dieu et de l'évangile. C'est la chose la plus importante qui soit, car Dieu est, il vit. En ce moment même, ce n'est pas d'actualité, me demande bien qu'est-ce que c'est. Il règne souverainement désormais. Il parle en ce moment même de différentes manières, mais de manière plus particulière par sa parole. Son Fils bien-aimé est ressuscité. Il est dans la gloire en ce moment même. Et lui-même dirige par sa parole puissante tous les événements de ce monde à un but précis qui en lui-même se résume à ceci, la gloire de Dieu. Et donc, nous sommes dans l'actualité la plus importante qui soit, pour nous-mêmes, pour le monde, pour nos âmes, etc. Donc, nous avons vu la semaine dernière comment est-ce qu'a pris fin le royaume de Babylone avec la mort donc de Belshazzar qui, en raison justement de la profanation qu'il a accomplie concernant les ustensiles et les vases de la maison de Dieu, le fait qu'il avait endurci son cœur malgré la connaissance qu'il avait reçue, et que selon le plan prédéterminé de Dieu, selon ce qu'il avait déjà annoncé d'avance, ben le temps de Babylone était terminé. Belshazzar avait beau défier Dieu, n'est-ce pas, en se disant que non, c'était impossible que l'Empire tombe, lors même que les Mèdes et les Perses étaient à la porte de Babylone, il croyait vraiment, lui et les siens, il croyait véritablement qu'ils allaient demeurer en place, que Babylone ne serait jamais veuve, mais Dieu a parlé et Dieu a agi. Et le soir même, en fait, dans la nuit même, après qu'il ait reçu l'interprétation donc du message que les doigts de la main avaient inscrit sur le mur, n'est-ce pas? Eh bien, Belshazzar est mort. On ne sait pas si c'est Darius lui-même qui l'aurait tué ou peut-être même des proches de Belshazzar qui l'auraient trahi, qui lui en voulaient Et quoi qu'il en soit, il est décédé et Darius a pris le pouvoir, s'est établi. C'en était terminé du royaume de Babylone, commençait le nouvel empire des Mèdes et des Perses, selon ce que Dieu avait annoncé d'avance. On a vu ça même, le prophète Ésaïe parle des Mèdes et des Perses, 150 ans avant que ce royaume donc n'apparaisse et ne prenne place en tant que tel. Quoi qu'il en soit, l'histoire ne nous dit pas grand-chose sur Darius, c'est comme Belshazzar. Elle nous dit que c'est Cyrus qui a conquis Babylone en tant que tel. Soit dit en passant aussi, selon ce qu'on retrouve dans les prophéties bibliques, Babylone aurait dû être détruite, dévastée. Elle le sera, mais pas immédiatement. Quand Darius a pris le pouvoir, semble-t-il qu'il n'y a pas eu de bataille. Il est entré tout simplement, on a plusieurs témoignages à cet effet, on ne sait pas toujours s'ils sont toujours fiables ou quoi que ce soit, mais l'idée celle-ci, il a pris le pouvoir sans qu'il y ait eu nécessairement beaucoup d'effusion de sang en tant que tel, mais ça ne veut pas dire que ce qui est annoncé n'est pas arrivé, c'est arrivé un peu plus tard. Mais la question est, qui est Darius? Certains ont pensé bien sûr que l'auteur du livre de Daniel, qui aurait vécu au deuxième siècle et non pas à l'époque de Daniel, que celui-ci se serait tout simplement trompé avec Darius Ier, qui est venu beaucoup plus tard. Bien sûr, on rejette complètement cela. Deux autres hypothèses. Darius serait Cyrus, tout simplement. On sait qu'à l'époque, notamment les rois, etc., les souverains portaient plusieurs noms. Et donc, certains pensent que Darius, c'est un autre nom pour Cyrus. Mais de toute évidence, c'est plutôt que Darius était l'oncle de Cyrus et qu'il a régné avec lui pendant un certain temps, pas très très longtemps, mais il a régné donc avec lui. Et donc, Darius a vraiment existé. On a des documents qui nous parlent d'un général qui porte un autre nom. Et habituellement, on croit qu'il est question de Darius, et à qui justement Cyrus aurait donné le royaume de Babylone. Il l'aurait établi sur le royaume de Babylone. Et donc, Darius, un peu comme Belshazzar, régnait avec un autre roi. Enfin, il était au-dessous de l'autre, tout en portant le titre, mais dans les documents officiels, on ne retrouve pas le nom de Darius en raison de cela. Quoi qu'il en soit, l'Écriture est infaillible. Et si nous disons qu'elle est infaillible, c'est non seulement qu'elle est infaillible dans la doctrine, dans la révélation de qui est Dieu, dans sa théologie, elle est infaillible au niveau de l'histoire, elle est infaillible au niveau de la géographie. Elle est infaillible au niveau de la science. On doit faire attention de ne pas mal interpréter les Écritures. Mais l'Écriture est la parole de Dieu. Et lors même qu'on n'est pas capable de prouver un fait qu'on retrouve dans les Écritures, nous savons que le fait est réel. Et qu'un jour, s'il plaît au Seigneur avant notre Sauveur revienne, s'il plaît à Dieu qu'on fasse quelques nouvelles découvertes, eh bien ces découvertes vont tout simplement prouver, encore une fois, la véracité des Écritures, comme cela se fait depuis très 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 longtemps. C'est pas nouveau qu'on attaque justement le caractère inspiré des Écritures, mais toujours, toujours, l'ennemi finit par perdre la bataille. Donc, premier point, Darius établit Daniel à la tête de l'État. Il vient donc de prendre le pouvoir, il nous est dit au verset 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Donc, comme je le disais la semaine dernière, Daniel avait à ce moment-là plus de 80 ans. Il était âgé, hein? Et Darius, ayant pris le pouvoir, va nommer donc à la tête du royaume 120 satrapes, non pas des satrapies, ça c'est quelque chose qui va se développer plus tard. Encore une fois, des gens ont voulu attaquer le texte biblique en disant « c'est impossible qu'il y ait eu 120 satrapies à cette époque-là, etc. » Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le terme satrape, ce sont, on va dire, des fonctionnaires, des hauts placés. C'est un titre assez large. C'est juste que, et on pense que c'était justement des gens qui ont été mis là de façon temporaire. Le but, c'est de s'assurer donc que le roi ne souffre aucun dommage, qu'il n'y a pas de s'assurer qu'il n'y a pas de révolte, de soulèvement de population un peu partout au sein du royaume, et aussi bien sûr que l'on puisse prélever les impôts. Car pour tous les royaumes et tous les pays, toutes les nations, toutes les provinces, les impôts sont très importants. Quoi qu'il en soit, donc, On pense que c'est une structure temporaire, mais le but, c'est le bon fonctionnement du territoire nouvellement conquis. Et Daniel est au-dessus donc des 120. Le roi établit trois chefs, trois surintendants, hein, qui vont à qui donc les 120 vont rendre compte, et ces trois-là eux-mêmes vont devoir de leur côté rendre compte au roi. Et Daniel établit Daniel parmi ces trois chefs. Encore une fois, on a dit, c'est pratiquement impossible que l'on ait ainsi établi un étranger, etc., etc. Il faut prendre en compte, encore une fois, que probablement, en fait, pas probablement, j'ai aucun doute que Darius a été mis au courant de ce qui s'était passé dans les heures avant qu'il a conquis Babylone. Et donc, tout ce qui est arrivé avec Daniel, et qu'en raison de cela, et certainement qu'il a décidé donc de l'établir. Certains pensent que peut-être même, parce qu'on sait que Daniel était revêtu, n'est-ce pas, de beaux habits, etc., par Belshazzar, et peut-être que lorsque Darius est arrivé, que Daniel avait encore ses habits, se demandait, mais qui est cet homme que Belshazzar venait d'établir sous lui, et en raison de ce que Darius a entendu, il a décidé donc de le compter parmi ses trois chefs. Mais plus encore, Darius apprend à connaître Daniel, et là, il s'est dit, waouh, quel homme, un esprit supérieur. Et certainement qu'en échangeant avec Daniel, Daniel lui a partagé aussi ce qui est arrivé par le passé, hein, et notamment ce qui est arrivé à l'époque de Nebuchadnezzar, etc. Mais quoi qu'il en soit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Quel homme, ce Daniel, hein? Rappelons-nous que ça venait de la grâce de Dieu. Rappelons-nous que ça venait de la grâce de Dieu. C'est la sagesse de Christ qui lui était accordée dans un but certain, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Donc, Darius songeait sérieusement à établir, donc, ce déporté de Juda à la tête du royaume. Ça veut dire qu'il avait une grande confiance dans cet homme, et cet homme qui avait servi pendant de nombreuses décennies, le roi Nebuchadnezzar, peut-être celui qui lui avait succédé aussi, quoi qu'il en soit, cet homme qui manifestait un réel respect envers le roi. Hein, qui semblait un homme intègre, un homme en qui on pouvait justement avoir confiance. Et ce que nous voyons encore une fois ici, c'est que après plus de 70 ans en Babylonie, fidèle à lui-même, Daniel persistait à servir son Dieu où celui-ci voulait bien le conduire, même à 80 ans. Daniel persistait, persévère à mettre ses dons, ses talents, son temps, ses énergies à la disposition de son Dieu, à faire de la volonté de son Dieu sa nourriture. Ce qui lui importait, c'était justement d'accomplir humblement la course qui lui avait été proposée. Ainsi, cet homme de Dieu et prophète a rempli la charge d'homme d'État la plus grande partie de sa vie, a occupé un emploi séculier, bien qu'il était prophète. Comme David, d'ailleurs. David avait un emploi séculier. Si on permet d'employer l'expression, je n'aime pas beaucoup l'expression, pour les croyants, il n'y a pas vraiment d'emploi séculier. Nous sommes tous au service de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Non? Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, parce que bien des croyants s'imaginent, ah, si j'étais pasteur ancien, si je pouvais enseigner dans une faculté de théologie, passer mes journées dans la Bible, mais ce n'est pas cela, servir Dieu. Certains sont appelés. Nous sommes tous appelés à servir notre Dieu à temps plein, sans exception là où Dieu nous a placés. Et nous avons un exemple, on en a d'autres dans les Écritures. Pensons à Joseph, établi, n'est-ce pas, sous la gouverne de Pharaon. Et on a ici donc un homme d'État. Ça ne va pas être facile dans un empire. D'ailleurs, même s'il avait été un homme d'État en Israël, ça n'aurait pas été facile non plus. En Juda, puisqu'on sait que ce peuple-là était apostat en tant que tel. Quoi qu'il en soit, l'idée est celle-ci. La plus grande partie de sa vie, il a occupé un emploi dit séculier. Jour après jour, pendant de longues décennies, il s'est levé chaque matin pour accomplir les lourdes tâches qui lui incombaient. Il a dû faire face plus d'une fois à de l'opposition et à de nombreuses difficultés. ne croyons parfois, souvent, mais les croyants, lorsqu'on lit ces histoires-là, ils nous disent « Ah, la bénédiction de Dieu, Joseph est levé à la tête de l'État. Moïse, hein, le grand prophète de l'Éternel qui conduit son peuple. » Est-ce que vous avez lu la même Bible que moi? David, que de souffrances, que de difficultés, que de combats, que de dangers. Ne croyons pas que ces années au service de l'État babylonien étaient faciles pour Daniel. On l'a vu d'ailleurs. Mais il a persévéré dans le chemin tracé par le Seigneur. Il n'a pas vécu pour lui dans le seul but d'assouvir ses envies, mais a consacré sa vie à son Dieu, à son peuple et à son prochain. Voilà à quoi nous sommes appelés, à servir notre Dieu. Et, Pasteur Perron nous disait ça ce matin dans le bureau, enfin dans votre prière, je pense, hein, nous sommes appelés à glorifier, avant toute chose, à glorifier notre Dieu. Selon ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Est-ce que ce n'est pas là notre désir dans notre cœur? Du moins, nous devrions prier, Seigneur, donne-moi la grâce de te glorifier dans ce que tu as préparé d'avance pour moi, en Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens chapitre 2, les versets 14 à 17, je vous invite à y tourner. C'est un texte qu'on a déjà vu, mais il est bon de le revoir, il est bon de le revisiter. C'est tellement un beau texte qui, je pense, va bien, s'insère bien donc dans ce que nous sommes en train de voir. Philippiens chapitre 2, les versets 14 à 17. Que chacun de vous, pas les anciens, pas les diacres, pas les plus avancés, les plus âgés dans la foi. Paul écrit à une église, une assemblée, l'église de Philippe. Il leur dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce n'est pas facile, ce n'est pas inné. Nous sommes des créatures égoïstes par nature. Est-ce qu'on risque un amen là-dessus? Nous sommes des créatures très égoïstes par nature. Est-ce qu'on risque un autre amen? Nous sommes des créatures très, très, très égoïstes par nature. Ah. Oui, ça veut. Non, amen dans le sens que oui, c'est la vérité. OK? C'est bien de le souligner. C'est la vérité. Ça veut dire, oui, pasteur, ce que vous venez de dire, c'est la vérité. Nous sommes des créatures très, très, très égoïstes par nature.
Oui, c'est la vérité.
Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut le connaître. Comment est-ce qu'on le connaît? Il va se révéler à nous dans un rêve. Il vient à nous le matin nous parler. Il faut ouvrir la parole, frères et sœurs. Il faut ouvrir la parole. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Waouh! Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu, et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Comment? En ne recherchant pas nos propres intérêts, en ayant les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est important ce que Paul vient de dire là. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain si vous ne cherchez plus vos propres intérêts, mais au contraire, si vous cherchez à vous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. qui lui-même étant Dieu dans toute sa plénitude, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais s'est fait serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur, il s'est fait homme et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il n'a jamais dit « Je suis Dieu, je ne mérite pas cela ». Et il a fait par amour pour les pécheurs que nous sommes. C'est l'abnégation par excellence. C'est le modèle par excellence. Car rappelons-nous que Christ est premièrement notre sauveur. Il a tout accompli pour nous. Mais il est aussi le modèle à suivre. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis avec vous tous, car Paul était en prison lorsqu'il a écrit ces mots, qui sont empreints d'une telle paix, d'une telle grâce et d'une telle joie, parce qu'il appelle d'ailleurs les Philippiens à demeurer dans la joie qui est en Christ et dans l'unité qui est en Christ Jésus. Cela m'a fait penser à un autre texte qu'on a déjà vu un certain temps. Je vous invite à y tourner aussi. C'est dans la deuxième épître de Paul adressée aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 6 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il y a tout un contexte qui est relié à cela. On sait que lorsqu'on lit les deux épîtres adressées par Paul à l'église de Thessalonique, qu'il y avait un problème concernant la question du retour du Seigneur. Et tout particulièrement dans la deuxième, il fait référence, en fait, il met en garde les croyants du fait d'être troublés ou ébranlés dans leur bon sens par une soi-disant lettre qui viendrait de lui ou de ses acolytes ou peut-être par quelques révélations particulières des gens qui se levaient en disant « j'ai une révélation de Dieu, une prophétie », comme de quoi que le jour du Seigneur était arrivé, c'est terminé, fini, c'est la fin du monde. C'est l'Apocalypse. Hein? Et là, bien sûr, ça créait des désordres dans l'Église. Et on pense que les gens qui, comme cela, avaient arrêté de travailler, c'est en raison de cela, en disant « c'est terminé, c'est le jour du Seigneur hein? ». On se prépare, tout simplement. Et l'apôtre Paul, donc, les met en garde contre cela. En fait, si on lit bien le texte, et on aurait pu aller sortir d'autres portions de l'Écriture, c'est qu'en fait, ces choses servaient plus d'excuses qu'autrement. Ça vient chercher, ce sont des réactions selon la chair, selon le vieil homme. Hein, il y avait du trouble, ça amenait un trouble au sein de l'église de Thessalonique, ces gens qui arrêtaient de travailler et qui devenaient oisifs et qui, en raison de cela, n'étaient pas occupés comme cela aurait dû. Frères et sœurs, nous sommes appelés à travailler, à gagner notre vie. La plupart des croyantes, bien sûr, à un certain âge, sont appelées non seulement à se marier, mais les croyants aussi, mais à avoir des enfants. C'est tout à fait normal. Certains sont appelés autrement. Mais en tant que tel, c'est la normalité. Ce ne sont pas des choses profanes à mettre de côté. Ça fait partie de notre appel, fait partie de la vocation, fait partie des instruments, si on veut, dont Dieu se sert pour nous façonner à l'image de son Fils. Et donc, prenons garde de ne pas prendre ces choses à cœur et de vivre justement dans la oisiveté et avec tous les dangers que cela représente. J'ai mis quelque chose à quelque part, j'essaie de retrouver où est-ce que j'ai mis ces notes-là. Attendez un petit peu. Voilà. Daniel vivait certainement dans un monde hostile. mais ça ne l'a jamais amené à déserter ce monde-là. Il n'était pas du monde, mais il était dans le monde. Nous voyons que malgré tout ce qui est, et le fait même qu'il aurait pu, bien sûr, prétexter le fait qu'il était juif, et même, nous l'avons vu, de descendance royale pour se révolter contre la situation, mais il savait que c'était le plan de Dieu. Il se soumettait au plan de Dieu avec beaucoup de grâce. Il ne s'est pas isolé, bien au contraire. Yann de Gouyde nous dit, en fait, il fait référence à un film dans lequel a joué Mel Gibson il y a quelques années. Je pense que j'ai déjà vu ce film-là. Je pense qu'en français, ça s'appelle « Conspiration », tout simplement. Gibson joue le rôle là-dedans d'un individu qui, justement, croit que le monde est rempli de toutes sortes de conspirations les plus bizarres les uns des autres. Et il croit qu'il est lui-même la victime d'une conspiration de la part du gouvernement américain. Ce qui fait bien sûr qu'à tout ce qui lui arrive, tous les événements qui lui arrivent, il a l'impression qu'il est justement ciblé. Il voit un hélicoptère passer dans le ciel, il pense que c'est pour lui que l'hélicoptère passe dans le ciel, etc. Bien sûr, il va voir une caméra, on le filme, on le suit, etc., etc. Hein? Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'il développe de la paranoïa. Alors, tous les événements sont interprétés à partir de son présupposé « je suis victime d'un grand complot ». Daniel était victime de complot. Alors, on le voit ici, mais il a vécu aussi par le passé. Daniel savait pertinemment qu'il vivait dans un monde injuste, cruel, dangereux. Mais Daniel n'est jamais devenu paranoïaque. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention aux ruses de l'ennemi pour nous détourner de notre appel, pour ébranler notre bon sens. Daniel interprétait tout ce qui arrivait dans sa vie. Il interprétait l'injustice dans le monde à partir de la parole de Dieu. Et il interprétait tous les événements à partir de ceci, mais aussi du fait qu'il savait que Dieu était derrière les événements. Il les contrôlait souverainement. Hein, et que Dieu était son secours dans les événements aussi. Daniel n'était pas un homme centré sur lui-même. Car un complotiste, comme l'individu dont je viens de parler dans le fameux film, n'est-ce pas? C'est un individu qui en fait est centré sur lui. Tout le monde tourne autour de lui. Daniel, lui, était en face de son... Pour Daniel, c'est Dieu qui était au centre de l'univers. Et il savait que Dieu contrôlait la situation. Et ça lui a permis d'accomplir le plan de Dieu à son égard. Quel est le plan de Dieu pour moi? Ça m'a rappelé, lorsque j'écrivais cela, le personnage de James Irwin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là? C'était un astronaute. Il est venu au Québec dans les années 80. Marie-Josée et moi, on a eu le privilège de pouvoir l'entendre. Il est venu parler du fait qu'en fait, de son, je cherche le terme, mais sa mission sur la Lune. Hein? C'était un astronaute, je pense que c'est Apollo 11 dans les années 70, il est mort maintenant, mais il est venu donc à Québec, mais pourquoi est-ce qu'il est venu parler de sa mission? Il était chrétien, c'était un baptiste, et il se servait de cela pour annoncer l'évangile. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait expliqué le fait qu'à un moment donné, il recherchait, je pense que c'était une pierre ou quelque chose, et bien sûr, chercher cela sur la Lune, ce n'est pas évident, et il racontait qu'à un moment donné, il est arrivé à un endroit, et ce qu'il cherchait était juste devant lui, et il rendrait gloire à Dieu. Il disait, il était persuadé que le Seigneur l'avait guidé pour la réussite de sa mission. Je raconte ça parce qu'il y a des gens, parce que je me souviens, il y a quelques années, même un frère dans la foi qui m'a beaucoup surpris, me disait comme ça, quand on parle du complotiste, il me disait, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et vous savez qu'une des raisons qu'on donne à cela, c'est, vous savez, quand on regarde le drapeau, les photos là, sur la Lune, il y a le drapeau là, qui flotte, c'est impossible, il n'y a pas d'atmosphère. Pensez-vous que les Américains auraient envoyé quelqu'un sur la Lune et mis un drapeau sans prendre s'assurer que le drapeau soit bien vu et pas fermé? Vous savez que c'est une prise de possession, c'était la gloire des Américains à l'époque de la guerre froide. C'est une manière de dire nous sommes supérieurs notamment aux Russes. C'est pas très, très, comment dirais-je, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour savoir qu'ils sont fait en sorte que le drapeau puisse être vu de tous, tout simplement. Ils savaient très bien qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Hein? Quoi qu'il en soit, l'idée est celle-ci. C'est que cet homme était un chrétien. Ce n'était certainement pas un sataniste qui s'est introduit dans l'Église chrétienne, faire semblant qu'il est allé sur la Lune. Il est allé sur la Lune. Il a marché sur la lune. Il rendait témoignage du fait que Dieu l'avait accompagné donc dans tout cela. D'ailleurs, il a fondé aussi un organisme pour la défense de la foi, je pense au niveau de la création, n'est-ce pas, face à l'évolution et tout cela. Voilà. Donc, maintenant, si le Seigneur agit comme il agit, s'il a fait sortir Daniel de sa retraite dans les dernières heures du règne de Belshazzar, c'est encore une fois en raison de son désir de préserver son peuple selon la promesse qu'il lui avait faite en vue de l'accomplissement de son plan rédempteur. Car il ne faut pas croire que les Mèdes et les Perses étaient en eux-mêmes plus miséricordieux que leurs prédécesseurs, que les Juifs se trouvaient naturellement plus en sécurité sur leur gouverne, ce que démontre clairement d'ailleurs notre chapitre. Sans aucune intervention divine, le changement de maître se serait soldé pour la descendance d'Abraham par une plus grande oppression que ce dont elle avait expérimenté sous l'Ancien Régime. S'ils ont été protégés, c'est parce que Dieu les a protégés et il s'est servi d'un instrument à cet effet. Cet instrument porte un nom, Daniel. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, pour son Église. Et il nous appelle aussi à le servir. Il fait de nous ses instruments. Ses instruments portent un nom. À quoi est-ce que je sers? Est-ce que je suis fidèle là où Dieu ou là où est-ce que Dieu m'a placé? Et si je suis encore jeune tout court ou jeune dans la foi, n'est-ce pas? Ben, il faut prier, Seigneur, conduis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et on n'a pas besoin de chercher des visions, quoi que ce soit. Il faut juste se mettre au travail et chercher les occasions pour servir Dieu et regarder autour de nous, bien sûr. Je suis marié, je n'ai pas besoin de poser de questions. Je m'occupe de mon épouse. J'ai des enfants, je m'occupe de mes enfants. Voyez-vous, il ne faut pas chercher très tard. Je suis membre d'une église. Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Selon les dons, les capacités, bien sûr, que Dieu m'a accordées. Donc, Darius pensait établir Daniel sur l'ensemble du royaume, ça fait des mécontents. C'est le deuxième point, l'opposition contre Daniel, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle, qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de semblable. Donc les desseins de Darius ont fait des mécontents. Les chefs, les satrapes voient cela d'un très mauvais œil. Que ce soit par jalousie ou par crainte que Daniel ne devienne un obstacle à leur ambition personnelle, ces individus qui exploitent le système et en abusent à leur propre fin, il y a certainement énormément de corruption, donc qui ne travaillent pas pour le bien commun, mais pour eux-mêmes, pour leur vente. Ils tentent de trouver chez ce juif quelque chose dans la gestion des affaires de l'État qui pourrait leur permettre de l'accuser et de le diffamer aux yeux du roi. Normalement, on pourrait dire, on va toujours trouver quelque chose sur quelqu'un. Mais ils sont demeurés bredouilles. Conformément avec la réputation qui précède Daniel, leur quête ne donne absolument rien. Le dossier de cet homme est vierge, immaculé. Il n'y a aucun squelette dans son placard. Daniel est au-dessus de tout soupçon possible. Non pas que Daniel était sans péché, faisons très attention. Parfois, on lit des auteurs, même réformés, je trouve qu'ils vont un petit peu loin. Il faut faire très, très attention. Daniel n'était pas sans péché. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Rappelons-nous la déclaration de Salomon à la dédicace du Temple, de Chroniques chapitre 6, verset 36. « Il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Quand Paul écrit que l'ancien doit être irréprochable, il ne veut pas dire, bien sûr, qu'il a atteint la perfection morale, mais ça veut dire qu'il doit être exempt de comportements grossiers qui viendraient jeter l'opprobre sur son ministère ou sur l'Église elle-même ou qui pourrait être un obstacle donc à son service. De même, eu égard à sa fonction, on ne pouvait blâmer Daniel sur quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire pas quel trait de caractère, il a pu manquer de patience un jour, quoi que ce soit, n'est-ce pas, lui-même devait combattre ses propres péchés. Mais au niveau de, si on le comparait au reste des hommes, il était bien sûr d'une vertu supérieure, mais en tant que tel, c'était un homme d'une grande probité. Il ne s'était trouvé coupable ni de déloyauté envers son souverain, ni de malhonnêteté ou de malversation, ou encore de négligence dans son travail, ni d'aucun autre crime passible d'être puni par la loi ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu le discréditer. C'est rare, même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. On ne trouve pas toujours cela. Quatrième point, l'édit de Darius, versets 5 à 9, ou le piège. Or, ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu, puisque c'est... » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, cet homme sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc, savez ce que la Bible nous dit? Le méchant prend plaisir dans l'injustice et le mensonge. Il prend plaisir dans la fourberie. Dépourvu de la crainte de Dieu, il peut être très ingénieux en vue d'accomplir ses mauvais desseins. Il peut faire preuve d'une grande habileté dans le mal pour arriver à ses fins, afin que sa soif d'étouffer la vérité et de voir le juste périr puisse être rencontré justement. Et c'est ce qu'on voit ici. Ces hommes ont réfléchi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pouvant attaquer directement Daniel en vue de le faire tomber, ils vont tenter de le prendre au piège en se servant de sa foi. Ce qui révèle qu'ils étaient convaincus que Daniel ne compromettrait jamais celle-ci. Le décret... n'est-ce pas, établi que si quelqu'un désobéit à cette loi, à celui-ci, il va être jeté au lion. Et ils étaient persuadés que Daniel finirait dans la fosse au lion. Quel témoignage rendu à cet homme? Ce n'est pas extraordinaire? Ils étaient persuadés de cela. Malheureusement, ce qui aurait dû susciter leur admiration était plutôt pour eux un sujet de moquerie, de dédain. Et c'est vrai même dans l'Église de Dieu. Il arrive que la piété d'un individu, d'un homme ou d'une femme, bien sûr, soit dénigrée au nom de je ne sais pas quelle liberté chrétienne ou quoi que ce soit. Prenons garde à cela, frères et sœurs. Prenons garde à cela. Alors, ils ont élaboré un funeste stratagème et ils vont se précipiter à grand bruit devant le roi. Certains vont traduire plutôt « tous ensemble, bien unis ensemble, n'est-ce pas, faisant un corps ensemble, ils vont se présenter devant le roi. Ils usent de flatterie. Ô roi Darius, vis éternellement, etc., etc. » On sait très bien qu'ils ne pensaient pas réellement ça dans leur cœur. Tout ce qu'ils pensaient, c'était à leur propre bien, à eux, leur propre vente. Et de tromperie, tous les chefs du royaume. Daniel ne faisait certainement pas partie de cela. Il n'a certainement pas été consulté. Rien ne nous dit qu'ils ont consulté non plus tous les satrapes. L'idée, celle-ci, ils en mettent. Hein? Et là, ils persuadent le roi, justement, d'édicter une loi qui va interdire pendant 30 jours quiconque dans son royaume de prier quelque dieu ou individu que ce soit, si ce n'est Darius lui-même. Avec l'idée probablement de consolider justement le jeune royaume. Hein? Et encore une fois, la peine encourue, c'est la fosse au lion. On s'est posé la question si Darius ici voulait se défier ou quoi que ce soit. C'est juste pour 30 jours. L'idée serait celle-ci, c'est que le roi était considéré, même chez les Perses, bien souvent comme le représentant des dieux ou même comme le fils des dieux. L'idée, c'est ceci. En passant par toi, ça va fonctionner. Hein, et Darius semble tout à fait à l'aise avec cela. L'idée demeure quand même qu'il est certain que Darius s'est enflé d'orgueil. On l'a flatté où ce qu'il fallait. Il s'est laissé prendre au piège. Hein? Et on peut se poser la question, Darius devait très bien savoir que Daniel n'obtempérait jamais à une telle chose. Et pourtant, aveuglé complètement par ses belles paroles, hein, par tout cela, alors il signe le décret. Et comme on vient de le voir, le problème avec ce décret, c'est qu'il est irrévocable. Le roi ne pourra jamais l'annuler, ni même le transformer, le modifier. C'est ainsi. Hein? On voit ça dans le livre d'Esther, entre autres. Alors, s'il a signé le décret, c'est terminé. Quiconque, pendant les 30 jours qui vont suivre, quiconque va prier un autre Dieu ou s'adresser à un autre homme à cet effet, ne passe pas par Darius, donc va devoir mourir. Et cette mort, c'est le fait qu'il sera jeté au lion. Mort extrêmement cruelle. Verset 10, la réponse de Daniel. Lorsque Daniel fut su que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Dès la signature du décret, Daniel a su qu'il était victime d'un coup monté. Comment est-ce qu'il réagit? On ne détecte chez lui aucune panique. Il a dû avoir peur quand même, c'est pas nécessairement agréable. Il ne se cache pas. Il n'essaie pas de fuir. Bien sûr qu'il y a des moments où même les chrétiens doivent fuir, là, mais dans le contexte présent, en tant que personnage public, en raison de ses hautes fonctions, il ne pouvait pas agir ainsi. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à aller dans sa demeure, comme il le faisait par le passé. Trois fois par jour, il prie agenouillé en direction de la ville de Jérusalem. Il continue comme si de rien n'était. Et à la vue de tous, parce que c'était un homme public, certainement beaucoup de gens même visitaient sa maison, quoi que ce soit, et il ne s'est pas caché. Le fait de prier en direction de la ville de Jérusalem répond à la déclaration que fit Salomon au moment de la dédicace du temple concernant le peuple qui un jour sera exilé. C'était déjà écrit dans la loi et Salomon savait que c'était une possibilité et Salomon a écrit que lorsque le peuple sera exilé, si le peuple de Dieu dans son exil prie en direction de la ville de Jérusalem dans un esprit de repentance, que Dieu va l'écouter et que Dieu va faire revenir son peuple dans la terre promise. Daniel est un homme de la parole. Depuis qu'il est à Babylone, il tourne son regard trois fois par jour vers Jérusalem. Il n'a jamais oublié Jérusalem. Le psaume 137, les versets 5 à 6, nous dit ceci. « Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Jérusalem, la ville de David, la ville du grand roi, la ville de toutes les promesses, la ville où se trouvait la demeure de Dieu. Et David était, pas David, mais Daniel était comme David, un homme qui aimait la demeure de Dieu. « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me reposer à l'abri de tes ailes. » Psaume 61, verset 5, a écrit David, alors qu'il était en exil. Alors nous voyons le cœur de Daniel ici, cet adorateur de Dieu, qui même s'il était privé du temple de Jérusalem, de la ville sainte, gardait ces choses dans son cœur, sachant que Dieu avait fait la promesse de restaurer le temple et de relever la ville. Et il savait d'ailleurs que le temps était arrivé. Alors, il ne pouvait s'arrêter de prier ainsi. En obéissance à son Dieu, c'est la foi véritable. Daniel, un homme de la parole, un homme consacré corps et âme à son Dieu depuis sa jeunesse, qui faisait sienne ces paroles de David aussi, qu'on trouve dans le psaume 63, verset 4 et verset 9, quand David fait référence à nouveau au fait qu'il veut retourner revoir la maison de Dieu, il dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Car ton essède, ton amour alliantiel vaut mieux que la vie. Mon âme est attachée à toi, quoi qu'il arrive, quelles que soient mes difficultés, quel que soit le dessein de mes ennemis. Seigneur, tu sais que mon âme est attachée à toi pour faire ta volonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, parce que la vie elle-même n'est que passagère ici-bas. Et que, comme le disait John Gill, la vie, l'homme qui n'a pas peur à la bonté de Dieu, même s'il vit, en fait, est mort. Il ne vit pas de la véritable vie. Mais celui qui a peur à la bonté de Dieu, à la bonté alliantielle du Dieu de la grâce, du Dieu du salut, celui-là a la vie éternelle. Car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est exactement la pensée de Daniel. Mieux vaut mourir dévoré par les lions que d'être privé de la bonté de Dieu. Mais si je renie publiquement mon Dieu, je n'aurai plus part à sa bonté. Frères et sœurs, nous sommes dans la main de Dieu, comme le disait si bien notre frère tout à l'heure. Dieu nous a connus d'avance, prédestinés, il nous a appelés, justifiés, et nous sommes déjà glorifiés. Mais je n'ai pas le droit de le renier. Car si je le renie, je ne fais que démontrer qu'en fait, que je n'ai pas été connu de Dieu de toute éternité. Il faut la persévérance, car ta bonté vaut mieux que la vie. Quelle connaissance de Dieu, frères et sœurs! Ses yeux étaient fixés et son cœur était au bon endroit. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce qui vaut mieux pour nous? La connaissance de Christ, ce qu'il accomplit à notre égard, ou la vie passagère d'ici-bas. Stuart Elliott de nous dire, les menaces de mort n'impliquent pas qu'il faille arrêter de faire ce qui est juste. Le bien reste le bien. Les circonstances changent, mais pas les absolus de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, notre devoir dans la vie est de faire ce qui est juste, quand bien même les cieux devraient s'écrouler. C'est ce que fait David ici. Bien que vivant depuis longtemps à Babylone, ayant fait carrière, ayant recherché le bien de la ville selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas, où celui-ci l'avait envoyé, Daniel ne s'est jamais laissé modeler par les valeurs de celle-ci. Il est demeuré profondément attaché à la loi de son Dieu. Daniel était un pèlerin à Babylone. Vous savez quoi? Même David dira, nous sommes passagers, nous sommes aussi des voyageurs ici-bas, alors qu'il était à Jérusalem. Car chacun d'entre nous, sans les croyants, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas chez nous en tant que tels ici. Nous attendons la cité de Dieu. Il habitait physiquement à Babylone, mais ne s'y était pas spirituellement établi, ayant précieusement préservé son caractère de pèlerin sur cette terre étrangère. Je termine avec 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Notre Dieu, nous voulons te bénir encore une fois pour la sainteté de ta parole, sa clarté, sa puissance. Nous prions qu'elle fasse son œuvre en nous. Nous prions que cette semence puisse porter du fruit. Nous prions pour notre consolidation dans la foi, frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions, comme Daniel, marcher dans tes voies et remporter la victoire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour cette bonté que tu nous as manifestée en Christ Jésus notre Seigneur. Donne-nous en retour par ta pure grâce de répondre à celle-ci comme il se doit. Donne-nous, comme Daniel, de nous consacrer à toi. Donne-nous, notre Dieu, d'être fidèles là où tu nous as placés. De ne pas rechercher ce qui, à nos yeux, peut être élevé, car ce qui est élevé devant, pour l'homme, notre Dieu, est en horreur devant ta face. Car ce qui est grand, notre Dieu, réellement, c'est lorsque nous accomplissons ta sainte et parfaite volonté, ayant pour modèle ton Fils qui, lui, s'est abaissé, méconnu de tous, méprisé. Il était le saint, le juste. Il était l'homme parfait. Il était la vertu incarnée. Il a fait l'objet de tout ton amour. Et parce qu'il a accepté l'humiliation la plus grande qui soit, parce qu'il a manifesté une abnégation totale, notre Père, afin de s'offrir en sacrifice pour l'accomplissement de ta volonté et pour notre salut, tu l'as élevé au-dessus de tout autre nom. Ainsi, ceux qui portent leur croix aujourd'hui, ceux qui te suivent, ceux qui acceptent de mourir pour toi, ceux qui acceptent la honte du nom de Christ, vont un jour régner. Mais pour cela, notre Dieu, nous avons besoin de persévérer là où tu nous as placés. Donne-nous, notre Dieu, de demeurer fidèles, chacun, chacune, sans exception, par ta grâce en Christ Jésus notre Seigneur, quel que soit notre âge, notre situation. Amen.